Il y a 15 jours, nous avons entamé ce temps de partage sur le prophète Jonas. Le premier chapitre nous a permis de comprendre un peu les premiers éléments, le pourquoi Jonas a pris cette décision de désobéir à l'ordre de Dieu. Vous vous rappelez ? Il voyait le peuple de Ninive comme un peuple tellement horrible dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, qui préférait le voir périr. Et il savait très bien que si Dieu l'envoyait vers le peuple de Ninive, c'est que Dieu souhaitait faire grâce. La vision de Dieu n'était pas celle de Jonas. Et Jonas, pourtant, est un prophète, un homme de Dieu, un homme qui entend Dieu lui parler et qui, malgré tout ça, malgré tous ces éléments, prend la décision de fuir dans la direction opposée. Ce qui est à retenir aussi, c'est que malgré la position de Jonas, malgré la fonction de Jonas, malgré la relation de Jonas avec Dieu, Dieu n'usera pas d'autres traitements pour Jonas qu'il aurait utilisé pour une autre personne. Dieu ne fait pas de distinction, et je dirais que plus on a des responsabilités, plus Dieu nous en demande. Et on pourrait se dire, mais c'est quand même dur la manière de Dieu d'intervenir vis-à-vis de Jonas. Mais pourtant, si Jonas avait pris cette décision, il était aussi conscient de ce qui allait en réalité se produire pour sa vie. Que se passe-t-il quand quelqu'un se met en réalité en rébellion vis-à-vis de Dieu ? À votre avis, si nous devenons consciemment rebelles à Dieu, on peut commettre des erreurs. On peut se dire « je ne savais pas » et en réalité ne pas savoir. Faire une erreur parce qu'on n'a pas tenu compte de certaines choses. Mais là, Jonas, il sait très bien ce qu'il fait. Et si Dieu l'avait laissé aller librement dans ce que Jonas voulait faire, certainement Jonas se serait perdu complètement. Et Dieu prouve son amour envers Jonas en mettant tout un ensemble d'éléments pour finalement ramener son serviteur à la sagesse, le ramener à la vérité. On va lire le deuxième chapitre et on va voir les éléments d'aujourd'hui ensemble. Le texte dit, Jonas chapitre 2 à partir du verset 1, « L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. » Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des gens se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. Comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Amen. La première chose, c'est que l'Éternel fait intervenir un grand poisson. Vous vous rappelez qu'au chapitre 1, il y a une tempête qui se lève et ceux qui sont sur le bateau se posent la question de cette grande tempête qui met en danger tout le monde. Et tout le monde invoque son Dieu, tout le monde est auprès de ses idoles, mais il y en a un qui dort dans la soute. C'est qui ? Et le capitaine du navire va voir Jonas en disant, mais pourquoi toi tu ne pries pas ? Qui tu es vraiment ? Qu'est-ce que tu fais là ? Quelle est la direction que tu es en train de prendre ? Pour quelle raison tu nous attires à quelque part tous ces problèmes ? Parce que, cependant, ils avaient tiré au sort pour savoir qui attirait des problèmes. Et Dieu a permis que ça tombe sur Jonas. Et finalement, les questions de ces hommes amènent Jonas à dire, voilà, moi je suis serviteur de l'Éternel. Et je suis en train de partir dans la mauvaise direction, mais jetez-moi à la mer et le problème sera résolu. Le capitaine du navire ainsi que les autres marins ne voulaient pas en réalité s'attirer encore les problèmes de Dieu, mais c'était Dieu qui dirigeait toutes choses et je crois que nous sommes conscients que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Que ce soit les situations positives qui nous font du bien, qui nous plaisent. Mais Dieu est capable aussi d'utiliser les manières, je dirais, les situations négatives pour nous ramener à la raison. Nous, parfois, on considère tout ce qui s'oppose à nous comme quelque chose qui vient forcément du malin. Et si Dieu permettait que certaines choses viennent pour nous ramener à la raison ? On a parfois un fonctionnement qui ne fait pas preuve toujours de sagesse et de discernement. Mais en tous les cas, Jonas est conscient et il se dit ben, la seule espérance pour que les marins soient sauvés puisqu'ils sont coupables de rien, jetez-moi à la mer. Et Jonas s'est dit pour moi, je suis arrivé au bout du bout. Vous savez, parfois on peut avoir le sentiment que Dieu est ce Dieu fouetteur, ce Père, que dès qu'on se trompe, il nous tombe dessus. Et pour Jonas, probablement, il s'est dit, moi, je suis arrivé au bout, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas, et bien certainement, là, il va y avoir quelque chose. Pour moi, je suis arrivé à la fin, je n'ai pas obéi à Dieu, et bien je vais mourir. Tant pis, mais les autres seront sauvés. Hein ? Il fut jeté à la mer, la Bible elle nous dit que la tempête fut apaisée, mais l'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. L'histoire de Jonas n'est pas terminée. La mort attendue du prophète n'aura pas lieu car Dieu envoie un grand poisson pour sauver la vie de Jonas. Quelle manière étrange de la part de Dieu d'intervenir. Et en effet, le poisson est le premier de quatre éléments que Dieu utilisera pour travailler le cœur de Jonas. C'est le premier. Poisson. On va en trouver les autres trois si vous voulez bien. Toujours dans le livre de Jonas, au chapitre 4, les versets 6 au verset 8, qui nous dit, Jonas, chapitre 4, versets 6 à 8, « L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. » Tiens, Jonas était de mauvaise humeur. « Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. » Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Quatre manières de Dieu d'intervenir. Un grand poisson, le ricin, un ver, le vent. Quatre choses qui nous montrent que Dieu intervient comme il veut, où il veut, quand il veut. Rien n'empêche à Dieu de se servir des éléments de la nature comme aussi des animaux. Alors si un jour vous voyez un gros poisson passer à côté de vous pendant que vous baignez, posez-vous bien la question, est-ce que tout va bien Seigneur ? Est-ce que je suis dans la bonne direction Seigneur ? Hein ? Et soyons attentifs à la manière de Dieu de nous parler, parce qu'on va le voir, les autres trois points, on les verra un peu plus loin. Mais déjà, c'est un premier message que Dieu envoie à Jonas. Et moi, j'ai mis dans mes notes que, en effet, Dieu fait preuve, encore une fois, d'une certaine providence pour Jonas. Et le texte nous dit qu'il va passer 3 jours et 3 nuits, et ça va être assez compliqué pour lui. En faisant quelques recherches, on voit que Jésus nous parle des 3 jours et 3 nuits de Jonas. Et en effet, si on en fait bien le calcul, on est à 72 heures. Le texte de Matthieu, chapitre 12, verset 40, il dit, Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus parle de la période que lui va passer dans le lieu où sont les morts, et en réalité pour amener l'évangile. Et quand vous faites un peu le calcul, puisque c'est certes 3 nuits, mais 3 journées pas pleines, hein, il y a un total de 72 heures. Mais ça, c'est un détail. Je dirais que même 1 heure dans le ventre du poisson, c'est déjà long. Non ? Qui peut attester ça ? Qui peut témoigner de... Vous savez, le poisson peut avoir différentes formes. On pourrait se dire, je suis à la montagne, je ne risque rien. Mais le poisson peut devenir quelque autre chose qui peut nous tenir enfermés et nous empêcher en réalité de pouvoir bouger. Je pense qu'il n'avait pas la possibilité de bouger dans le ventre du poisson, Jonas. Il n'avait même pas la possibilité de prendre des notes, Jonas. Tout restait marqué là-dedans. Il y a des expériences qui restent marquées dans notre conscience, n'est-ce pas ? Il y a des pensées, des choses qu'on a pu partager dans des moments où on s'est senti ligoté, incapable de faire quoi que ce soit et de pouvoir se sauver soi-même. Jusque-là, Jonas avait fait des calculs, il s'était dit « voilà, je vais partir dans la direction opposée ». Il a pris ses sous, il a payé le billet, il est monté sur le bateau, il s'est dit « chouette, ça va marcher ». J'ose pas dire qu'il a dit « Dieu est avec moi » parce qu'il savait très bien que ce n'était pas le cas, mais il s'en est rendu vite compte. Et des fois, nous, on fait nos projets, on ne tient pas compte de ce que Dieu nous dit. Et on considère que malgré tout, ben, Dieu nous suivra dans nos projets parce que tôt ou tard, ben, Dieu comprendra, il est compréhensif. Sauf que Dieu comprend bien plus que nous. Et ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu nos projets, mais c'est à nous de saisir, de comprendre et de vivre les projets de Dieu. N'est-ce pas ? Alors il est amené dans la salle d'attente de Dieu. Jonas se retrouve dans les entrailles du poisson, nous dit le verset 2. Ah, vous aimez les salles d'attente ? Que faites-vous quand vous êtes dans une salle d'attente ? Vous attendez sagement, vous dites tout va bien. Ou est-ce que déjà vous commencez à cogiter de qu'est-ce qui peut se produire, qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce que vous allez répondre ? Hier matin, j'ai ramené ma voiture au contrôle technique. J'ai dû attendre qu'il fasse et j'étais en salle d'attente. Et je me disais dans ma tête, pourvu que ça va bien, que ça, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Hein ? On est là en train de se dire, Seigneur, pourvu que tout ça aille bien, parce que sincèrement, faut pas de tuiles là, hein ? Non ? Et quand on est dans la salle d'attente du médecin, on se dit, ben, espérons que nos analyses elles sont bonnes, hein, que le cœur on fait pas des siennes, que la glycémie soit au top, le cholestérol tip-top, hein, et que tout le reste que le médecin dise, vous allez bien, parce qu'on n'aime pas les mauvaises nouvelles. Mais là, Jonas, il est dans la salle d'attente de Dieu parce que, malgré tout, il ne sait pas ce qui va se passer par la suite, même s'il se trouve dans une situation qui est particulière parce qu'il est conscient qu'il n'y a que Dieu qui peut dire au poisson, bah, va les Jonas. Mais qu'est-ce que Dieu va faire maintenant ? Le poisson, il ne va pas le ramener à Tahiti pour faire des vacances. Non, il va plonger dans les profondeurs de la mer. Et il va se rendre compte que Jonas, que là, lui, il ne contrôle plus rien. Il ne peut plus trouver moyen de se défaire de cette situation tout seul. Alors, qu'est-ce que Jonas va faire qu'il n'a pas fait jusque-là ? Ah ! Et si on fait bien attention, quand on commence à rentrer dans un état de rébellion, on quitte la prière. Très souvent, puisqu'on sait, quand on le fait consciemment, on n'ose presque plus prier parce qu'on sait très bien que, ben, on est repris dans notre conscience. Jusque-là, Jonas, il n'a pas posé la question à Dieu en disant « Seigneur, voilà, tu me dis d'aller là-bas, peut-être c'est vrai, peut-être je me trompe, peut-être j'ai mal interprété. Tiens, je vais mettre une toison, je vais reprier. Si tu fais pleuvoir partout sauf sur ma toiture, ça ira. Seigneur, si demain matin je me lève et le soleil brille, c'est que je ne dois pas y aller. » Hein, vous savez, parfois on peut demander des signes à Dieu un peu étranges, non hein? Hein? D'abord, on regarde la météo et après, on dit, Seigneur, si demain le soleil brille, hein, ça veut dire que tu es avec moi. Si ce n'est pas le cas, mais comme la météo a dit que c'est le cas, Seigneur, voilà. Sauf que Dieu est capable de changer la météo. Hein? N'est-ce pas? Mais là, jusque-là, Jonas, il n'a pas prié. Et ne plus prier, ça veut dire que notre cœur s'est déjà bien laissé happer par nos mobiles, par nos propres directions. Finalement, Jonas prie. Il pria l'Éternel son Dieu et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Alors, je voudrais vous faire noter que la manière où le texte nous rapporte les choses, certainement Jonas a dû écrire une fois qu'il était sorti du poisson, n'est-ce pas? S'il n'était pas sorti, on n'aurait pas eu les textes. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas dans le poisson qu'il a pu prendre des notes. Hein, il avait oublié son calepin et son crayon. En plus, il n'y avait pas de lumière installée. Mais la question, c'est que Jonas, en effet, il nous fait un rapport d'une situation bien précise. Et il fait un bilan. Verset 4. Il dit, « Tu m'as jeté dans les bas-fonds au cœur des mers et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Il est conscient d'être entre les mains de Dieu. Pourquoi est important de, à quelque part, de disséquer la prière de Jonas? Parce que vous savez, je pense que Jonas, certainement, il devait avoir quelque part un membre de sa famille. Certainement, Jonas, comme il était prophète, devait avoir des personnes qui écoutaient ce que Jonas disait. Mais on ne voit pas d'autres personnes être interpellées et prier pour Jonas, pour sa situation, parce que c'est le problème de Jonas. Ça ne veut pas dire que personne ne priait pour lui. Mais c'était une question entre Jonas et Dieu. Et très souvent, la personne qui est en état de rébellion, mais ne vous inquiétez pas, Dieu saura comment parler à son cœur. Et comme on est suffisamment capable d'être orgueilleux et fier de l'être, on ne le dit pas aux autres que Dieu nous reprend. Mais on s'entête dans notre position, et c'est un peu le cas de Jonas qui va continuer. Il aurait pu dire au marin, écoutez, revenez en arrière, on va être sauvés. Je vais repartir dans la bonne direction. Maintenant, il dit, jetez-moi à la mer. Et c'est là qu'il va expérimenter quelque chose, mais il va devoir faire un bilan. Et il sait que Dieu est tout puissant. Il est question pour lui de prendre conscience qu'il ne pourra pas fuir à la volonté de Dieu. Il ne pourra pas, entre guillemets, empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Et il se considère chassé de la présence de Dieu. Mais il fait aussi preuve de repentance et de foi. Le verset 5, il dit, « Et moi, je me disais, je suis chassé loin de toi, mais je contemplerai encore ton saint temple. » N'est-il pas la phrase de quelqu'un qui sait que s'il vient véritablement avec un cœur repentant à Dieu, Dieu est capable de faire grâce. Amen. Pourtant, lui ne voulait pas que Dieu fasse grâce à Ninive. Et souvent, on a un peu une interprétation personnelle pour la grâce. C'est quand ça nous concerne, c'est d'une manière, quand ça concerne les autres, c'est autrement. On est parfois enfermé dans une vision très rigide et Dieu nous prouve qu'il est capable de pardonner le cœur repentant. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Mais Jonas expérimente le fait d'être chassé de la présence de Dieu. Et Dieu le place dans la méthode intensive. Connaissez-vous la méthode intensive de Dieu? Non ? Regardez. Versets 6 et 7. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des gens se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours. C'est la méthode intensive de Dieu. C'est à quelque part, tu veux aller loin, mais on va aller très loin. Tu veux aller bas, mais tu vas aller encore plus bas. Pour que finalement, quand tu sois arrivé au plus bas du plus bas, tu trouveras le courage de lever ta tête et de crier à moi. Parce que Dieu sait exactement de quelle manière nous soigner. Il ne va pas mettre un petit pansement. Parce qu'autrement, on est tenté de revenir sur le même problème. Non ? Si on arrive à régler un problème juste avec un petit pardon, qu'est-ce qui se passe ? On va entendre une grand-mère qui va nous donner un conseil. Quand un fils ou un petit-fils fait une bêtise, par hasard, hein, et qu'à un certain moment, il est pris en flagrant. Hein ? Un petit pardon, mais l'amour de la mère ou de la grand-mère, ben oui. Et il se dit, mais comme elle m'a pardonné la dernière fois, je peux recommencer, c'est pas trop grave, je redirai encore pardon. Et après, nous recommençons. Et oui, un bisou au passage. C'est bien, toujours. Hein ? Mamie, je t'aime. Maman, je t'aime. Et déjà, on pense à la manière où on va refaire ça en disant, mais la prochaine fois, je ne vais pas me faire choper. Hein, fils ? Mais là, Dieu lui dit, Jonas, tu as décidé d'aller trop loin. Tu t'es rébellé. Tu as pris une direction qui n'est pas bonne. Il faut que tu puisses comprendre ta décision jusqu'à où elle va t'amener. Et pour que tu puisses véritablement saisir qu'il n'y a de salut qu'en moi. Et en réalité, c'est la méthode qui va plonger Jonas dans un tombeau, excusez-moi, liquide. En effet, c'est quand on se sent perdu que finalement on comprend et on apprécie le secours que Dieu nous donne. Et il dira au verset 7, la deuxième partie, « Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel, mon Dieu. » Amen. Parce que, à quelque part, il va expérimenter cette miséricorde de Dieu qui va lui donner une possibilité de secours. Alors, vous savez, il faut reconnaître d'être malade pour accepter d'être soigné. Quand vous dites à quelqu'un, tu es rebelle, non, c'est pas vrai. Mais je vais vous dire, arrêtez d'insister. D'ailleurs, on n'aurait même pas besoin de devoir le dire à la personne. Je pense qu'elle devrait en être consciente elle-même et reconnaître elle-même de dire, j'ai été rebelle. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue ? Oui ? Quand est-ce que le fils prodigue a pris la décision de revenir à la maison ? Quand tout allait bien ? Quand il est arrivé au plus bas dans sa vie, quand il avait tout perdu, quand même il désirait manger ce qu'ils mangeaient les cochons, et lui, il n'avait rien à manger. Et c'est là où l'estomac faisait ces drôles de bruitages, hein, du vide, la sonorité comme d'une baleine qui chante. Mais lui aussi s'est senti prisonnier d'une situation, d'une circonstance, et là, il a compris, il a dit... Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'a pas dit à son père, tu sais, j'ai fait des mauvais investissements. Ce n'est pas ma faute, c'est les autres. Non, il va assumer ses responsabilités. Et c'est ce qui va se passer aussi pour Jonas. Parce qu'en réalité, c'est que quand on en arrive là, qu'on est véritablement capable de changer de direction. Jonas est amené à retrouver la raison et reconnaître son besoin personnel de Dieu. Il dit au verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi. » C'est perso. C'est quelque chose qui doit se produire dans son cœur. Alors on voit la prière du pécheur repentant qui est attendue par Dieu. « Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Quelle beauté! Ça veut dire que, où que nous soyons, quelle qu'il soit la condition dans laquelle nous nous trouvons, si nous prions, Dieu nous entend. Dieu entend même celui qui a été rebelle. Pourquoi ? Parce que avant d'être un rebelle, il est son enfant. Autant que parents, quand votre enfant a fait une bêtise, est-ce que vous le regardez méchamment jusqu'au moment où est-ce que le cri de votre enfant vous fait déjà intervenir en vous disant « Mon fils, appelle ». Certes, on va se dire dans notre tête « Ah, si tu m'avais écouté, tu te serais épargné ça », mais ce n'est pas pour autant qu'on le laisse, non ? Notre cœur, il est sensible, alors imaginez le cœur de Dieu. Nous, parfois, on voit Dieu comme quelqu'un, excusez-moi, de dur. Vous savez quand est-ce qu'on comprend qui est vraiment Dieu ? Quelqu'un pourrait dire quand on lit la Bible. Non, quand on la vit. Quand on vit ce que la Bible elle nous dit, là, on reconnaît l'amour de Dieu. Quand on expérimente sur notre propre peau que ce que la Bible elle nous dit, c'est vrai. Parce qu'on passe d'une connaissance culturelle, intellectuelle, à une expérience personnelle. Et c'est là qu'il dit... Je me suis souvenu de l'Éternel parce qu'il savait de quoi l'Éternel était capable. Alors il prend conscience et cette prise de conscience spirituelle l'amène à faire la différence entre Dieu et les idoles. D'ailleurs, il dira « Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. » Il n'y a que Dieu qui est bienveillant. Et vous savez, le salut est le fruit d'une décision personnelle. Certes, nous pouvons prier pour ceux qui sont malheureusement perdus, qui sont peut-être égarés, qui sont toutes les conditions possibles. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont être sauvés tant qu'eux, ils ne prendront pas une décision. Et dans le cas de Jonas, il faudra que lui, il prenne cette décision. Et d'ailleurs, au verset 10, il dira « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices » Avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Quelle joie de voir pour ce père, voir ce fils prodigue revenir à la maison. Quelle joie pour le cœur de Dieu entendre son serviteur dire « Voilà Seigneur, je vais accomplir mes vœux. Seigneur, je fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. » C'est pas ce que Dieu entend le mieux, ce que Dieu a envie d'entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie auquel nous, on dit au Seigneur, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Parce que je parle autant pour les frères que pour les sœurs. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Hein ? Est-ce qu'il y a des choses dans votre cœur que vous dites, Seigneur, je ne suis pas encore prêt là ? Ah, t'es pas prêt ? Bon, on va aller un peu plus loin. Ah, t'as pas compris ? Mais très bien, on va y aller encore un peu plus loin et tu vas sentir la pression sur tes épaules. Hein ? Eh, mais Seigneur, non, attends. Je ne veux pas d'excuses. Je veux de l'obéissance. Nous, on est des champions des excuses. Mais vous savez, le pardon n'est pas donné aux excuses. Le pardon est accordé au cœur repentant. Et magnifique le verset 11. L'Éternel parla au poisson. Qu'est-ce qu'il a dit au poisson ? Qu'est-ce qu'il a pu dire au poisson ? Vous avez déjà parlé au poisson, vous ? Hein ? Peut-être devant l'aquarium ? Hein ? Ne sors pas de ton... Mais oui. Mais là, Dieu parle au poisson et le poisson... Obéis à Dieu. Quel témoignage. Je me rappelle le témoignage d'un frère qui avait écrit son témoignage et racontait qu'un jour, il s'était retrouvé dans une forme de naufrage. Il était tombé à l'eau et un gros requin pointait sur lui. Et il a dit, la seule chose que j'ai su faire, c'est prendre autorité en disant, au nom de Jésus, pars d'ici. Et le requin, il est passé à côté de lui, il a continué. Et je pense que ça a dû l'impressionner un peu. Moi, en vous le partageant, ça m'impressionne pas mal, mais lui, il n'a pas dû oublier la couleur du requin. N'est-ce pas ? Et combien de fois dans notre vie, le danger nous a frôlés ? Combien de fois dans notre vie, nous avons pu dire au Seigneur, « Seigneur, interviens sur telle ou telle situation, la tempête, le vent, je ne sais pas. » Est-ce que Dieu n'a-t-il pas parlé aux éléments ? N'est-il pas capable d'arrêter le vent ? Jésus arrêtera la tempête. Est-ce que Dieu a changé ? Alors, quels qu'ils soient les éléments qui sont déchaînés dans votre vie, dites-le, Seigneur, il est capable de les arrêter. Amen. Et je voudrais vous dire que s'il y a besoin aussi de déchaîner les éléments pour amener quelqu'un à lui, Dieu est capable de le faire. Alors, soyons pas inquiets, il tient toutes choses entre ses mains. Je vais terminer. J'ai pris note des 7 miracles pour Jonas. Dieu accomplira 7 miracles pour Jonas. Le premier, chapitre 1, verset 4. Il dit que Dieu causa une violente tempête. N'est-ce pas ?
Ah, mais ce n'est pas un miracle, frère.
Eh bien oui, allez-y, vous. Faites souffler la tempête. Essayez. Est-ce que vous avez autorité ? T'as autorité sur les tempêtes, Marc ? Pas encore ? Demande à Dominique, elle sait faire. Toi non plus, Dominique ? Ah, tu arrives. C'est bien. Mais Dieu soulève une tempête. Deuxième chose, Dieu fait tomber le sort sur Jonas. C'est étonnant, hein ? Chapitre 1, verset 7. Troisième chose, Dieu calme la tempête lorsque Jonas est jeté à l'eau. Chapitre 1, verset 15. Quatrième chose, Dieu commande aux poissons d'avaler Jonas. Chapitre 2, verset 1. Peut-être que si Dieu ne l'avait pas dit, poisson, il ne l'aurait pas avalé. Je ne sais pas si Jonas était digérable ou pas. Hein ? Cinquième chose, Dieu adoucit le cœur du prophète rebelle. Parce que Dieu, le véritable miracle, c'est quand Dieu change le cœur de quelqu'un. Certes, nous, on s'attend souvent à la guérison physique, morale, spirituelle, certes. Mais la chose la plus belle, c'est quand Dieu change le cœur de quelqu'un, n'est-ce pas ? Et là, Dieu adoucit le cœur du prophète. Sixième œuvre, Dieu ouvre les yeux spirituels de Jonas, chapitre 2, verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Septième chose, Dieu fait transporter sain et sauf Jonas par le poisson et le fait rejeter sur la terre ferme. Combien de choses Dieu est capable de faire pour nous ? Alors on pourrait se dire, mais est-ce qu'on considère tout des miracles ? Ben oui. Et certainement que si vous regardez bien dans votre vie, combien de miracles Dieu a déjà accomplis ? Et peut-être vous n'avez même pas relevé que c'était un miracle de Dieu. Vous savez, ces miracles quand, par exemple, vous étiez en difficulté et jamais le pain a manqué sur votre table. Hein ? Quand vous étiez dans une situation désagréable et Dieu est intervenu, quand vous aviez besoin de travail et Dieu a ouvert une porte pour vous, comme ça, pouf ! Hein ? Ou quand Dieu a fait telle ou telle chose, je pense que si on commençait véritablement à réfléchir, combien de miracles nous avons déjà vus dans notre vie ? Alors est-ce qu'on prend la mesure ? Est-ce que nous aussi, frères et sœurs, nous allons faire comme Jonas il l'a fait ? Il dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. » Alors, peut-être qu'il est temps pour nous aussi de se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel je suis encore un peu rebelle ? Est-ce qu'il y a quelque chose où je suis encore un peu têtu ? Est-ce qu'il y a quelque chose, Seigneur, où je fais encore preuve de caractère ? Parce que si on n'aime pas le mot rebelle ou têtu, on peut dire, moi je fais preuve de caractère. Hein ? Ou quelqu'un d'autre dira, j'ai des opinions et je les défends. Certes, il y a des opinions qui sont défendables, mais il y a des opinions qui sont indéfendables devant Dieu. Et mieux vaut pour nous de savoir comprendre à quel moment il faut s'arrêter avant de se retrouver comme Jonas. Alors je voudrais vous inviter cet après-midi à prendre un moment dans la prière et dire au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur.